avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour le 142e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Deux segments dans cet épisode, ce qui est un petit peu inhabituel, mais il s'agit du premier épisode après le retour de vacances. Et c'est presque devenu une tradition maintenant, dans ce cas je n'enregistre pas le segment commentaire pour me permettre de profiter des vacances. Pour le sujet principal, j'ai le plaisir de retrouver Vincent Luc, l'auteur des nombreux « Maîtrisez votre réflexe numérique ». Vincent a accepté de nous faire découvrir comment la rédaction de livres photos s'organise. Et je sais que vous êtes nombreux à acheter des livres photos, qu'il s'agisse d'ailleurs de ceux de Vincent ou d'autres, et donc j'ai trouvé intéressant d'aller voir comment ça se passe en coulisses. Retenez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com, c'est là que vous pourrez vous abonner, et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS, et ce donc y compris la page d'accueil Google. Vous pourrez également y poster un commentaire et y retrouver tous les liens de l'épisode. Vous pouvez écouter les épisodes directement sur le blog, mais il est plus facile de les copier sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia ou encore de graver un CD pour les écouter en voiture, en métro, en reportage ou en profitant des derniers rayons de soleil de l'été. Premier segment, comme de coutume maintenant avant l'interview, je vous présente quelques-uns des nouveaux articles disponibles sur www.déclencheur.com depuis notre dernier mag. Malgré les vacances, le blog carnet s'est enrichi de beaucoup de notes, et ce grâce à la magie de la publication automatique. J'en épingle 4. La note Le point d'équilibre qui résume notre travail chez Advancia et présente les pistes d'évolution qui se préparent. Une note de prise en main de l'Ediroll R44, un enregistreur 4 pistes qui vient compléter le Fostex pour permettre d'organiser des interviews avec plus de participants. Une note tout simplement pour dire que le matériel pro est vraiment trop gros quand, comme pour Déclencheur, une seule personne doit gérer à la fois l'image et le son. D'où vient le nom Déclencheur ? Une note où vous apprendrez que Déclencheur a failli s'appeler Stupeur. Ce ne sont que quelques exemples, Carnet a également parlé de HDR, Lightroom, LoRaid, les banques d'images et j'en passe, dont une question d'ailleurs sur les cartes promotionnelles. Une visite sur www.déclencheur.com s'impose, et ce n'est pas tout, puisque vous y trouverez également le Wiki News dont je vous rappelle le principe. C'est une zone du site que vous éditez, où vous venez partager votre expérience avec la communauté Déclencheur. Donc si vous êtes satisfait d'un boîtier, d'un logiciel, d'un objectif, d'un livre ou d'un site photo, eh bien venez le dire. Vous y trouverez par exemple un compte-rendu du Tamron 28-300 et des objectifs primés à l'ISA cette année, et un compte-rendu de Jean-Baptiste sur le guide de la photographie ancienne. Si vous êtes abonné par fil RSS au podcast, le blog Carnet et le Wiki News sont des abonnements séparés pour plus de flexibilité. Deuxième segment où l'on découvre le travail d'un auteur de livres sur la photo. Salut Vincent.
Bonjour Benoît.
Comment tu vas?
Très bien, et toi?
Mais ça va bien, ça fait plaisir de te retrouver. Ça va faire quoi? Ça va faire un an qu'on s'était rencontrés.
Pas loin, ouais.
Pas loin, non, non. Hein.
Un plaisir partagé.
C'est gentil, merci. Et c'est vrai que ton chat était tout sympa avec moi, ce qui paraît-il est le signe que ça se passe bien.
C'est un signe de bon accueil, il est relativement asocial, comme moi d'ailleurs. Donc s'il t'adopte, c'est la manifestation que moi aussi je t'ai adopté. C'est à se demander s'il ne ressent pas les choses.
Super. Je t'avais proposé un sujet qui me paraît être intéressant parce que je l'ai vu nulle part et je crois que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. C'est quoi la vie d'un auteur de livres photo?
C'est beaucoup de travail, mais c'est avant tout beaucoup de passion. Donc il y a effectivement beaucoup de temps à passer en fait sur les appareils photo, mais le but d'écrire et la raison d'écrire reste la passion et le partage de cette passion. La volonté de pouvoir rendre service en fait à tous les gens qui se sont achetés le boîtier sur lequel on écrit pour les aider en fait dans leur pratique et les accompagner dans la progression de cette pratique.
Tu as cette série Maîtrisez-le et puis on insère n'importe quel boîtier ou presque derrière. Comment est-ce qu'elle est née?
C'est né en fait du côté des éditions Erol. Donc, il y avait ce projet d'adaptation, en fait, de livres qui existaient déjà chez VM sur les boîtiers argentiques. Et en numérique, il y a eu peu, finalement, de nouveautés. Et quand la démocratisation des boîtiers s'est amorcée, les éditions Erol ont vraiment cerné le besoin d'une adaptation des livres sur les spécificités des boîtiers et surtout sur tous les changements que sous-entendent la photo numérique par rapport à l'argentique.
C'est toi qui as créé la série, en fait.
Oui, oui, avec l'aide d'Arnaud Frisch, qui était donc mon lien avec Erol dans un premier temps. Donc on a établi une table des matières, effectivement, qui a servi donc au premier livre de la collection, le 350D.
Quand tu as lancé la série, tu t'attendais à ce que ça marche comme ça marche? Parce que ça marche vachement bien comme série.
Mais effectivement, on a rencontré un certain succès. J'en suis toujours le premier étonné, en fait. Je me revois donc au moment de signer les contrats, où j'ai dit texto, 3000, j'ai pas honte, 4000, je suis content, 5000, champagne.
Et alors champagne?
Plusieurs fois.
C'est une des questions que j'avais laissées sur le blog en disant aux gens, tiens, tu faisais des questions pour Vincent. Et une des questions qu'on m'a demandé, c'est, tiens, combien d'exemplaires de chaque livre vends-tu grosso modo?
C'est encore difficile d'avoir un retour dans la mesure où on n'a pas le même recul en fait d'un livre à l'autre. Le tout premier a maintenant 2 ans et demi et on a dépassé, je crois, les 25 000 ventes sur cet exemplaire précis, sur le 350D. Les autres étant sortis après, on n'a pas le même recul jusqu'au dernier en fait qui est sorti il y a quelques mois, donc à propos du 40D, qui est sorti en fait un petit peu avant Noël l'année dernière. Donc on peut tabler, en l'état actuel des choses, je pense, sur une moyenne de 10 000 ventes par livre.
Ce qui est énorme en fait.
Il paraît, mais j'ai, en fait, n'ayant pas vraiment de référence dans le domaine, bon, je regarde les chiffres, je souris quand je les vois parce qu'effectivement, c'est des nombres à 5 chiffres. Mais c'est vrai que j'avais peu de références en fait d'autres livres, puisqu'on arrive finalement avec un contenu qui est relativement nouveau par rapport à ce qui se faisait avant, donc qui permet pas d'avoir un vrai recul, on va dire. Mais on est quand même globalement très, 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 très content des chiffres.
Ouais. Je continue avec les questions là. Est-ce qu'il y a un exemplaire de la série qui s'est mieux vendu que les autres?
Bah, là encore, c'est difficile à établir puisque chaque livre n'a pas la même durée d'exploitation en l'état actuel des choses. Le premier a 2 ans et demi, le dernier a quelques mois. Donc forcément, en 2 ans et demi d'exploitation, on a pu vendre beaucoup plus d'exemplaires.
Tu sens qu'il y a des exemplaires qui sont plus populaires que d'autres ?
Oui, on peut voir ça comme ça. Effectivement, le 350D a extrêmement bien marché. Il y a des boîtiers qui sont plus porteurs que d'autres et le succès du livre est toujours très lié en fait à la vie commerciale du boîtier, aussi au secteur visé. On réalisera forcément beaucoup moins de ventes sur un appareil expert comme le Nikon D200 ou le Nikon D300 que sur un appareil qui est beaucoup plus axé entrée de gamme, qui est beaucoup plus populaire aussi en termes de tarifs et de facilité d'accès, comme l'a été le 350D.
On a l'impression avec la série qu'en final tu as construit une trame. Donc j'imagine que le premier, ça a été l'enfer à écrire, mais qu'après, tu peux reprendre simplement la même trame et puis ajuster à gauche, à droite. Tiens, ils ont un peu changé la F, tiens, ils ont un peu changé la mesure d'exposition, et puis hop, on va les peser, ça te fait un nouveau bouquin. Et pourtant, tu mets un temps fou pour les sortir.
Oui, 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 tout à fait, parce qu'effectivement, la trame de départ et la table des matières d'origine ont été établies pour cette facilité de réexploitation de certaines rubriques d'un livre à l'autre, en minimisant en fait les corrections de l'un à l'autre. Tout ça pour finalement gagner du temps et sortir le plus vite possible parce qu'il y a des impératifs de délai à tenir et évidemment des enjeux commerciaux qui nous dépassent. En revanche, je n'arrive pas en fait à faire juste un copier-coller, c'est au-dessus de mes forces. Donc il y a toujours une volonté de révision des contenus, d'adaptation aussi au public. On ne va pas décrire la même rubrique de la même façon sur un appareil d'entrée de gamme comme un 450D que sur un appareil qui vise un public expert beaucoup plus aguerri, comme le Nikon D300. Donc il y a toujours cette volonté de correction qui doit être mise en relation aussi avec les impératifs de délai et autres. Et donc il y a toujours des compromis à faire, plus ou moins faciles et plus ou moins épanouissants, on va dire. Mmh. Faire un copier-coller d'un livre vers un autre, ce serait uniquement un coût commercial et ce n'est pas du tout ce qui m'anime. La volonté, c'est vraiment d'aider les gens dans leur pratique photo. Pour ça, les commentaires que les lecteurs peuvent m'envoyer m'aident beaucoup, en fait, pour réviser certaines parties, pour améliorer la qualité du contenu de certaines, pour aborder de nouveaux sujets. Et c'est beaucoup plus intéressant, en fait, que de s'endormir sur des pseudo-lauriers ou de se reposer sur un simple copier-coller. La difficulté, elle réside, en fait, avec certaines gammes de boîtiers, dans le fait que le boîtier lui-même, le boîtier nouveau, est finalement un copier-coller d'un boîtier plus ancien auquel on a ajouté quelques fonctionnalités, acquis un échantillonnage sur 14 bits, acquis un mode censé augmenter la dynamique avec une meilleure gestion des hautes lumières, mais la trame du boîtier lui-même restant la même, c'est assez difficile de, entre guillemets, de réinventer la poudre d'un livre à l'autre. Et effectivement, sur ces cas-là, on a du mal à éviter des ressemblances d'un ouvrage à l'autre. Oui.
Le 40D, c'est un bouquin que tu as sorti super vite. Le boîtier est sorti un tout petit peu après, on avait le bouquin pour Noël. Et puis à côté de ça, le D300 qui est sorti à peu près en même temps, les pauvres Nikonistes, ils doivent toujours attendre. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas les Nikonistes ?
Non, 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 pas du tout. C'est que la rédaction d'un livre est toujours adaptée aux spécificités du boîtier. Et il faut quand même reconnaître que le 40D, par rapport aux autres boîtiers Canon qui ont pu sortir avant, c'est l'ajout de quelques nouvelles fonctions, mais c'est globalement un copier-coller de la fiche technique et des performances qui fait que on peut se permettre d'aller relativement vite dans la rédaction du livre, dans la mesure où il n'y a pas énormément de nouveautés. Donc on peut effectivement reprocher au livre d'avoir une forte ressemblance avec celui sur le 400D ou le 350D, mais il ne faut pas perdre de vue que l'appareil en lui-même, il a plus qu'une forte ressemblance avec les performances d'un 400D par exemple. Sur le D300, c'est différent, puisque le public visé est autrement plus large, autrement plus expert. Et le D300, on peut clairement dire que c'est un appareil professionnel qui doit répondre à des besoins professionnels et qui, du coup, sont autrement plus variés, donc avec autrement plus de réglages de personnalisation possibles.
Et il a tellement changé par rapport au D200 ?
Il y a suffisamment de nouveautés dans le boîtier lui-même et suffisamment de nouveautés en termes d'écriture et d'apport des idées que, effectivement, on préfère prendre le temps de faire un livre qui soit pas trop ressemblant, en fait, enfin, qui garde l'esprit par rapport au livre du D200, mais qui n'aura rien d'un copier-coller, en fait, de l'ouvrage précédent, pour éviter justement la déception des lecteurs qui, pour beaucoup, sont passés d'un D200 à un D300, chose qu'on ne soupçonnait pas, en fait, à l'annonce du boîtier.
Qu'est-ce qui change entre le travail que tu fais en magazine, puisque tu écris aussi pour Réponse Photo, et le travail que tu fais pour les bouquins ?
La façon d'écrire est assez différente, en fait. En magazine, en presse, on a un lectorat qui est relativement volatile, mais qui est a priori intéressé par le sujet, puisqu'on a une revue spécialisée, que tout un chacun ne va pas directement acheter dans un kiosque, comme un programme télé ou autre. Donc quand on aborde des sujets techniques, on peut se permettre en fait certaines élisions, on peut se permettre de considérer certains acquis qu'on peut pas du tout avoir en fait dans un livre, dans la mesure où on sait moins à qui on s'adresse, ou en tout cas on s'adresse à un public beaucoup plus large, qui peut avoir certaines compétences et connaissances, mais qui peut aussi ne pas les avoir. Donc pour perdre personne au passage, puisque le but du livre est vraiment d'aider les gens à se servir de leur appareil, on reprend les notions à la base tout en accompagnant les gens et les experts en espérant aussi qu'ils apprennent de nouvelles astuces, de nouvelles pratiques et de nouvelles techniques. Donc on a une écriture qui finalement se fait à deux vitesses. On a aussi plus de latitude en termes de volume dans un livre que dans un article où on est souvent limité par un nombre de pages assez restreint qui permet pas, par exemple, si on parle d'une fonction de gestion des hautes lumières, on n'a pas forcément la place d'expliquer systématiquement ce que c'est que le clipping, de revenir sur la dynamique du capteur, etc., etc. Ce qu'on peut beaucoup plus facilement faire dans un livre, dans sa globalité tout du moins.
Puis on est moins sur un livre dans l'actu, j'imagine.
On l'est un petit peu quand même dans la mesure où les produits numériques tendent un petit peu vers la logique, entre guillemets, informatique, qui est des renouvellements de gamme extrêmement rapides. On a une très grosse partie du livre qui parle justement du traitement logiciel des images, de l'archivage, du développement des fichiers RAW, etc. Et c'est vrai qu'il y a une obsolescence des outils qui est finalement assez rapide et qui nous impose d'être réactifs quant au logiciel, aux nouvelles versions et autres.
Est-ce que le fait d'avoir travaillé comme journaliste dans la presse photo t'a aidé ?
Indéniablement, sur le plan technique, sur le côté des tests, sur l'analyse des images, l'analyse des données techniques de l'appareil, c'est sûr. C'est sûr. Sur la phase de rédaction, ça a permis de dégrossir beaucoup le travail, mais la rédaction d'un article et celle d'un livre n'étant pas les mêmes, j'ai encore beaucoup appris au contact de mes éditrices, en complément de ce que j'avais pu apprendre auparavant au contact de la rédaction de Réponse Photo. Oui.
Comment est-ce que vous décidez, je dis vous parce que j'imagine que Carole a son mot à dire, des boîtiers que vous allez traiter ?
Il y a des boîtiers qui sont, on va dire, incontournables, parce qu'on pressent un succès commercial, notamment sur les boîtiers d'entrée de gamme. On dispose maintenant d'un certain recul par rapport à justement à toutes ces gammes d'appareils photo. Et aussi les boîtiers experts qui sont très attendus par les lecteurs et par les utilisateurs. Mais il y a toujours un compromis à faire entre tout ce qu'on voudrait traiter et ce qu'on est en mesure, techniquement et humainement, de traiter correctement. Donc on préfère faire des élisions, quitte à faire un petit peu des mécontents. Je pense notamment aux utilisateurs d'appareils Sony, d'appareils Pentax, qui pour le moment sont deux marques qui ne sont pas traitées dans la collection. Mais on préfère faire moins de livres et les faire bien, qu'en faire beaucoup et faire des concessions sur la qualité du contenu.
Est-ce qu'il y a une forte compétition entre auteurs ou entre éditeurs sur le marché du livre technique expliquant les boîtiers ? Et comment ça se passe en fait entre auteurs de livres concurrents en fait ?
C'est vrai que c'est un microcosme, donc on est amené à se croiser, à se rencontrer, à se connaître et se reconnaître. Il y a maintenant de plus en plus d'éditeurs qui effectivement se penchent sur la question. VM et Erol sont un petit peu les éditeurs historiques. Claude Tolaigne, qui a travaillé beaucoup pour Erol, en fait, a créé sa boîte depuis et fait depuis déjà pas mal d'années des livres sur les réflexes numériques. Et on voit de nouveaux arrivants qui arrivent du domaine de l'informatique ou de la littérature plus technique. On pense à Microapplications, à Duno. Et effectivement, il y a de plus en plus de concurrence à qui sortira le livre le premier, parce qu'il y a une grosse attente quant à la publication de ces ouvrages. Mais on a une totale conscience de ses implications commerciales et des délais, mais on préfère finalement privilégier la qualité du livre plutôt que la date de sortie de l'ouvrage.
Les premiers livres, tu les as écrits tout seul. Je me souviens, il y a un an, quand on s'est rencontrés, je t'avais dit « t'as pas de nègres ici, comment tu fais ?» Et puis là, maintenant, ça y est, t'as des nègres.
Pas des nègres, des co-auteurs. Effectivement, il y a maintenant du sang neuf, à force de chercher et de s'acharner à trouver de l'aide, parce que je n'arrive clairement pas à m'en sortir tout seul. Et parce qu'il n'est pas sain non plus de travailler tout seul sur un domaine aussi particulier. On a multiplié les recherches et on a fini par trouver donc des gens qui ont un regard extérieur et neuf sur cette collection et qui ont une implication, qui ont des domaines de prédilection et des domaines de compétences qui complètent les miens, qui ont une pédagogie aussi qui complète les miens et surtout qui ont un recul que je n'ai absolument pas depuis 3 ans quant à l'établissement de cette collection et de ces livres, dans la mesure où je suis en flux tendu, en production, en fait, sur toute l'année. Et grâce à ces nouveaux co-auteurs, effectivement, on peut modifier pas mal de choses. Le temps que je gagne, en fait, en confiant certaines rubriques à des co-auteurs et en écoutant leur retour, en fait, sur les rubriques telles qu'elles existent actuellement, ça me permet aussi de retravailler de fond en comble des rubriques nouvelles. Et sur le livre qui est effectivement en cours, là, sur le Nikon D300, on a remanié pratiquement 60% du contenu qui est totalement réécrit par rapport à ce qui a été fait sur le D200.
J'imagine que tu dois commencer un petit peu à ressembler à une petite rédaction de magazine, en final, avec une équipe autour. On décide des sujets, on répartit le travail.
Il y a effectivement une propension au côté réunion de rédaction qu'on peut avoir maintenant, au côté discussion, travail à plusieurs, qui est toujours enrichissant. Mais dans les faits, en fait, chacun travaille chez soi à son rythme, puisque bon, les autres co-auteurs restent avant tout des professionnels qui sont photographes avant d'être auteurs. Donc au quotidien, en fait, ça ne change pas énormément mon travail personnel. Ça l'a beaucoup soulagé, en fait, en termes de volume, et compléter aussi en termes de sujets, d'idées et de révision des rubriques.
Comment ça se passe avec les marques photo? Parce que moi j'ai remarqué en arrivant ici, il y a une nana avec un t-shirt Nikon qui t'ouvre la porte, il y en a une avec un t-shirt Canon derrière qui te souhaite la bienvenue, il y a des gardes avec marqué Nikon, Canon tout autour pour être sûr qu'on ne te dérange pas, donc ça...
Effectivement, c'est vrai que vu les enjeux de délai, les enjeux commerciaux, etc., etc., je suis entouré d'une sorte d'énorme filtrage à perte de temps et à digression. Mais grosso modo, plus...
Non,
plus
sérieusement, maintenant, il n'y a personne dans le couloir quand on arrive ici. Comment ça se passe avec les marques?
Plus sérieusement, on a la chance d'avoir des relations privilégiées avec les marques, effectivement, pour récupérer des contenus techniques, récupérer des informations qui ne sont pas nécessairement dans les dossiers de presse, qui peuvent éclaircir aussi des doutes qu'on peut avoir quant à la lecture du mode d'emploi et la mise en perspective de l'utilisation du boîtier. Il arrive qu'il y ait une mise en garde dans le mode d'emploi qui ne soit pas d'une clarté évidente et qui soit parfois contraire en fait, à la pratique et à ce qu'on peut en observer. Le fait d'avoir des relations privilégiées justement avec Canon et Nikon permet de lever des ambiguïtés qui peuvent rester en fait par une seule pratique sans avoir la connaissance technique de la façon dont fonctionne vraiment le réglage ou la fonction.
Comment est-ce que tu abordes un nouveau boîtier? Donc là, tu es en train d'en faire un sur le D300. Tu joues avec le boîtier pendant 3 semaines, puis tu te mets à écrire. Tu sais ce que tu vas aller chercher sur le boîtier, tu fais des essais ciblés.
Il y a un petit peu tout ça qui se mêle. Il y a différentes phases, en fait. Il y a à la fois une phase de découverte de l'outil, d'une façon la plus, entre guillemets, naïve possible, comme si on était, en fait, un lecteur qui vient de s'acheter son premier réflexe numérique. Donc ça passe par la lecture, les lectures du mode d'emploi. Et en même temps, tout en tenant compte de tout ça, il faut cerner les nouvelles fonctions, les tester, reprendre le dossier de presse, mettre en perspective les nouveautés de cet appareil par rapport à ce qui a pu se faire avant dans la même marque. La seconde phase, c'est de mettre ça en perspective avec ce qui s'est fait chez les concurrents. On se met dans la peau de l'expert qui a la connaissance des boîtiers précédents et qui cherche en fait les nouveautés, qui cherche les progrès du nouvel appareil. Donc il y a une lecture qui est finalement à plusieurs niveaux. une énorme phase de test pour s'assurer des qualités techniques du boîtier et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisations concrètes de l'appareil dans des situations diverses et variées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Donc, quand tu dis utilisation du boîtier, ça veut dire que pendant un mois, tu ne shootes qu'avec le D300 ?
Pendant toute la durée de la réalisation du livre, en fait. C'est vrai que dans un premier temps, j'avais conservé l'habitude d'avoir dans mon sac à la fois le Leica qui assure ma survie intellectuelle, on va dire, parce que je ne peux pas m'en passer, et le boîtier sur lequel je travaille. Et je me suis aperçu que j'avais finalement de mauvais réflexes, puisque si j'arrive sur une situation qui m'intéresse à titre personnel, je vais attraper le Leica et finalement doubler l'image avec le réflexe sur lequel je travaille, ce qui n'est pas une bonne idée dans la mesure où l'image numérique n'est finalement qu'un pis-aller par rapport à celle que je voulais faire au départ. Donc je joue maintenant la carte de l'immersion totale, donc je ne me sers effectivement que du boîtier sur lequel j'écris, pendant toute la durée de la rédaction du livre. Donc il y a effectivement dans un premier temps, avant la rédaction concrète, une énorme phase de reportage, de test, donc énormément de photos qui sont faites avec l'appareil. Et en parallèle de la rédaction, il y a toujours un besoin finalement de faire de nouvelles images, de creuser certaines fonctions, parce qu'au fur et à mesure de la rédaction, on s'aperçoit de certaines choses auxquelles on n'a pas forcément pensé de prime abord. Il est assez fréquent que, rédigeant en fait une rubrique sur la partie 3, on va dire, ça impose une petite révision de quelque chose qui a été écrit au départ, sur la phase de découverte du boîtier, etc. Donc il y a toujours une mise en perspective globale de l'appareil par rapport à ses concurrents et par rapport à la table des matières du livre. J'ai toujours de quoi écrire sur moi. Bon, les infos exigent, les appareils sont d'un grand secours en termes de prise de notes. J'ai toujours quelque chose, un détail qui peut paraître insignifiant mais qui peut avoir son importance et qu'on remarque. Et mes co-auteurs pratiquent exactement de la même façon. Ils ne remarquent pas nécessairement les mêmes choses que moi puisqu'on a chacun nos domaines de prédilection et nos champs d'application. Donc on a vraiment une impression concrète et pratique de l'outil par cette immersion totale. Oui.
Et une des difficultés, j'imagine, alors que tu as manipulé tellement de boîtiers, c'est d'arriver à cerner les questions que va se poser la personne dont c'est le premier ou dont c'est le deuxième boîtier numérique.
C'est très juste, c'est très juste. Et effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste un petit peu un de mes défauts. J'ai une volonté d'exhaustivité et de précision qui fait sans doute une part de la force des livres actuels, mais qui peut certainement effrayer un néophyte. J'ai tendance à trop reprendre la notion de base pour expliquer le fondement du pourquoi de la balance des blancs, par exemple. Enfin, pour reprendre l'exemple de la balance des blancs, pour bien des utilisateurs, la balance des blancs automatique est totalement satisfaisante. Et il est vrai que dans 95% des cas, elle fonctionne assez correctement. Mais c'est au-dessus de mes forces, en fait, de m'arrêter là. Je ne peux pas m'empêcher finalement de développer les 5% où ce réglage impose une correction et vraiment essayer d'aller plus loin que le simple automatisme, que le simple mode programme ou les programmes résultats ou autres, au risque finalement d'effrayer effectivement certains néophytes. Mais j'ai la chance d'avoir une relecture donc par deux éditrices et maintenant trois co-auteurs qui pondèrent beaucoup mes élans d'exhaustivité et de technique. Mais des élans qui finalement restent toujours concrets. Pour moi, la technique, ça n'a de sens que pour les photos que ça permet de réaliser. Et il y a vraiment un travail d'équipe qui est énorme et qui est nécessaire et qui est certainement bénéfique aussi. J'ai souvenir de mes tout premiers manuscrits qu'on pourrait maintenant comparer aux textes qui sont publiés. Il y a une différence énorme. Non seulement en 3 ans, j'ai énormément appris sur la façon d'écrire, sur la façon d'organiser ses idées, de les présenter, d'assurer des transitions entre les phrases, mais aussi sur le fond, sur l'architecture vraiment et sur le style d'écriture. J'ai la chance d'avoir beaucoup de retours justement de lecteurs et il en découle qu'on ait un lectorat qui est finalement double. Il y a effectivement une forte proportion de gens pour qui c'est le premier réflexe numérique et qui découvrent un petit peu cet univers, qui sont rassurés dans la mesure où on ne se contente pas de parler de l'appareil comme d'autres livres, mais vraiment de tout l'univers et de tout ce qui gravite autour, que ce soit certains accessoires utiles, mais aussi la gestion des images et surtout la façon d'assurer leur pérennité, parce que la photo est quand même avant tout un média de souvenirs et de partage avant d'être envisagé par certains lecteurs comme un moyen d'expression artistique. On a aussi une proportion non négligeable de lecteurs technophiles, experts, pour qui la nouveauté, la nouvelle fonction et la technique sont très importantes et auxquelles il faut répondre par justement une précision et une relative exhaustivité quant à ces nouveautés et leurs apports en termes de qualité photo, puisque là encore, le but restant quand même de faire des photos, des images et pas de la technique pour de la technique. Donc avec une lecture qui est possible en fait à deux vitesses, prendre les néophytes par la main pour les éveiller vers la technique, vers la pratique photo, tout en essayant d'apprendre de nouvelles choses aux experts, ce qui rend la rédaction plus délicate, mais aussi beaucoup plus intéressante.
Comment ça se passe la journée type, si jamais il y a une journée type ?
Schématiquement, on retrouve le rythme qu'on peut avoir en presse, c'est-à-dire qu'on doit livrer non pas l'article, mais le livre pour la veille. Donc il y a des délais qui sont extrêmement tendus, donc ça représente un travail vraiment très intense, mais il n'y a pas réellement de journée type, parce que la phase de test reste relativement technique, mais la phase d'illustration ou la phase d'écriture restent des activités qui sont relativement artistiques et qui sont un petit peu techniques, mais toujours soumises à inspiration et à impondérable. Il y a des jours où on est plus en éveil pour faire de bonnes images que d'autres. Il y a des jours où on est plus à même d'écrire correctement. Il y a des jours où on reste devant une feuille blanche et où rien de convenable ne sort. Mais il y a, du fait des délais et des attentes, il y a quand même une production qui est relativement régulière sans forcément m'imposer un nombre de pages par jour.
Ok, bah écoute Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que ça a été une plongée dans le monde fascinant de la rédaction de livres phototechniques. Merci.
Ben merci à toi Benoît.
À bientôt peut-être.
À bientôt, volontiers.
Pas de troisième segment, donc pas de réponse aux commentaires dans cet épisode. Le temps me manque avec le retour de vacances, mais j'apporterai une réponse écrite sur le bloc carnet dans les prochains jours. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit, cela signifie simplement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tous les renseignements pour ce faire sur www.déclencheur.com. Je rappelle également que Déclencheur vous propose des nouveautés tous les jours avec le Wiki News, sur lequel vous pouvez partager votre expérience du matériel, des livres, des accessoires, des logiciels ou des sites photos, et le bloc carnet qui vous ouvre les coulisses de Déclencheur. À bientôt donc sur www.déclencheur.com.